La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Descartes, Maritain, l'homme et Dieu. Pour terminer cette série sur Descartes par Maritain, nous allons terminer avec l'homme et Dieu. C'est ambitieux, mais vous comprenez bien que l'innéisme, c'est le fait d'avoir donc des idées innées, a pour conséquence un autre rapport, non seulement à l'être, mais à l'homme dans sa structure anthropologique, nous l'avons vu à la première émission, et dans le rapport à Dieu. La philosophie peut-elle être encore servante ou dans un lien organique avec la théologie? Il y a peu de chances si la mathésis universelle reste le critère ultime. C'est donc à partir de la conférence que tient Maritain en janvier 1931 au studio russe que je vais conclure cette série. Nous avons abordé le premier point, qui était en fait le dernier de la conférence, c'est-à-dire la façon dont l'homme était conçu dans la première émission de cette série. Eh bien, je vais revenir sur les deux autres points que j'ai laissés de côté, parce qu'ils étaient plus difficiles, mais maintenant ils vont vous paraître plus faciles. Il s'agit de l'idéalisme. Quelle est la signification culturelle de l'idéalisme ? Puisqu'on parle de réalisme, de philosophie réaliste, qu'est-ce que l'idéalisme et qu'est-ce que ça signifie ? Maritain se pose la question et voici comment il répond. L'idéalisme emporte avec lui une sorte d'optimisme anthropocentrique de la pensée. Optimisme, puisque la pensée est un Dieu qui se déploie. Et puisque les choses ou bien se conforment à la pensée, ou bien même n'existent pas distinctes d'elle. Quel drame pourrait donc survenir ? Il n'y a pas d'être pour faire face à la pensée, ou il n'y a qu'un être absolument docile à la pensée. Optimisme anthropocentrique, parce que la pensée dont il s'agit, c'est la pensée de l'homme. C'est autour de la pensée humaine que tournent les objets. Tout va bien pour cette pensée, tout ira de mieux en mieux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu le père Caffarel, qui était un père qui organisait des semaines d'oraison. Je dis bien d'oraison et pas de prière. L'oraison est quelque chose à retrouver dans notre monde. C'est nu, c'est l'Esprit Saint qui travaille tout seul. Eh bien, ce père Caffarel avait connu les Maritains, puisqu'en 1924, il était très proche d'eux. Il avait même gardé Meudon pendant qu'ils étaient partis pendant l'été. Il disait souvent, il y a deux façons d'être. Ou bien, alors il prenait sa main, il la repliait sur elle-même, ou bien on est replié sur soi-même, ou bien, et là il ouvrait toute la paume de la main et tous les doigts, on est comme un grand drap blanc déployé au soleil. Eh bien, il y a un peu de ça pour comprendre ce qu'est en train de dire Maritain. L'idéalisme replie l'homme sur lui-même, tout ira de mieux en mieux, mais il n'y a pas cette confrontation à l'objet, à l'autre, à l'être. Et c'est ça que reproche Maritain à l'idéalisme. Vous allez mieux le comprendre. Cet optimisme est, si je puis dire, suicidaire, écrit Maritain, car il suppose une rupture avec l'être. Et finalement, malgré les intentions personnelles de Descartes, et malgré l'effort de ses successeurs immédiats, une éviction de l'ontologique. Voilà la grande, la primordiale rupture cartésienne. L'homme enfermé en soi est condamné à la stérilité, parce que sa pensée ne vit et ne se nourrit que des choses que Dieu a faites. L'homme, centre d'un univers intelligible qu'il crée à son image, perd lui-même son centre de gravité et sa propre consistance, parce que sa consistance est d'être l'image de Dieu. Il est au centre d'un désert. Je vous avais parlé dans deux émissions précédentes de cette exposition qui m'avait beaucoup marqué au Guggenheim Museum de New York sur la planète. Et il y avait une niche consacrée à Descartes, présentée un peu comme responsable de ce qu'on entend maintenant. On a une grande critique de l'homme occidental comme prédateur, colon de la planète, épouvantable. Et on en profite pour faire une critique du christianisme puisqu'il y a eu Soumettez-les, le Summae Telle de la Genèse, qui est l'injonction de Dieu à Adam et Ève pour le monde. Summae Telle, donc, c'est lu par nos contemporains comme une responsabilité des chrétiens à être des prédateurs. Et donc, les véganes s'opposent, viennent en disant, vous chrétiens, vous mangez de la viande et vous êtes des prédateurs de la planète, etc. Eh bien, il y a cette idée d'un Descartes responsable, finalement, de la modernité. Et je pense qu'elle est plus juste chez Maritain que dans le reproche que font les véganes, de manière plus générale, l'ère du temps, aux chrétiens d'être causeurs de troubles de la planète. Maritain va considérer, à partir de l'idéalisme, plusieurs branches. La première, c'est les hiérarchies intellectuelles et le sens de la connaissance. Vous savez combien il y est attaché, puisqu'en 32, il publie les degrés du savoir. La raison humaine, c'est la raison en soi, avec un R majuscule, la raison à l'état pur, règles et mesures universelles. Toutes choses devront être ajustées à son niveau. Elle n'est plus mesurée, elle mesure. Elle se soumet l'objet. Même les adversaires du rationalisme, comme Blaise Pascal, ont au XVIIe siècle cette conception absolutiste de la raison. Descartes en a formulé la philosophie. Descartes n'a pas inventé l'évidence, comme le croit l'Emmanuel, mais il a complètement changé la signification de ce mot. L'évidence n'est plus une propriété de la chose, je veux dire, son intelligibilité radicale, venant s'épanouir dans l'esprit et s'imposant à nous dans le jugement que nous portons sur la chose. Elle devient une propriété des idées tableaux que nous contemplons dans notre pensée. Il y a des idées évidentes par elles-mêmes, ce sont les idées claires et distinctes, les idées de ce que Descartes appelait les natures simples. Savoir, c'est tout réduire à ces idées claires et distinctes, décomposer l'objet en ses atomes d'évidence. Je me demande si j'ai besoin de vous commenter ce texte, parce que les trois séances précédentes nous ont permis de le comprendre. L'inéisme fait qu'on a une perte de la relation à l'objet. Le simple rappel de ce qu'est l'intentionnalité pour un philosophe réaliste, l'intentionnalité c'est que le sujet connaissant devient l'objet connu, nous montre qu'il y a une passivité en quelque sorte du sujet connaissant pour devenir l'objet connu. Avec Descartes, non. Les idées tableaux sont finalement en autarcie totale. Il n'y a plus de monde extrinsèque. Et c'est le grand reproche que fait Maritain à la raison, avec un grand R, cartésienne. Pour lui, l'évidence, elle est, pour les anciens, elle est manifestation d'un mystère. Mais pour Descartes, elle n'est plus manifestation d'un mystère. Elle se définit par une clarté fondée sur la clarté mathématique. C'est cette perte que déplore Maritain. Tout le mouvement de l'intelligence était sain, consacré, parce qu'orienté vers Dieu. La philosophie elle-même était chrétienne. La connaissance profane était chrétienne. En effet, par son objet, la philosophie est strictement distincte de la foi et de la théologie. Elle est d'ordre strictement naturel et rationnel. Mais dans le sujet, dans l'âme humaine, elle est fortifiée et éclairée par les vertus supérieures avec lesquelles elle est en continuité vitale, intégrée au grand mouvement d'amour qui porte cette âme à la vision de son Créateur. Vous sentez bien qu'on est en Maritainie, on est en philosophie réaliste, mais on est en profonde Maritainie. C'est vraiment un leitmotiv très important que nous trouvons ici. On est dans Le Songe de Descartes, c'est une œuvre donc de 1930-31, et vous avez cette reprise dans Approche sans entrave, œuvre publiée à titre posthume, donc en 1973, et qui est augmentée de 4 petits dessins de Maritain. Maritain aimait beaucoup les schémas, ils sont souvent plus difficiles à comprendre que le commentaire, mais c'est pas grave, c'est un excellent dessinateur. Et les 4 petits schémas concerne les bons théologiens, les médiocres et puis les moins bons. Et le grand théologien, qui est le dessin numéro 1, c'est celui qui est hanté, on va dire, sur la vie mystique. Et il s'y hante par l'horizon. S'il n'y a pas cette vie d'horizon, cette vie finalement du Christ qui vit dans le sujet au rang, il ne peut pas y avoir de bons théologiens, il n'y aura que des répétiteurs, que des gens qui vont répéter ce qu'ils ont lu de saint Thomas ou commenter le crayon à la main de manière scientifique. Il ne peut pas y avoir cette intuition. Eh bien, vous l'avez ici. On est pratiquement 40 ans avant Approchant d'entrave, et vous avez cette vision du sujet philosophant qui est inspiré par l'Esprit-Saint et qui peut faire une œuvre qui a du sens, une œuvre qui concerne l'homme et qui concerne surtout la vérité. En opposition, Descartes. Voilà comment Maritain le décrit. Avec Descartes, tout change. Cette distinction dans la cohérence et la solidarité dynamique devient séparation, isolement, bientôt opposition. La philosophie se suffit absolument et à elle toute seule dans l'âme. Non seulement son objet est d'ordre naturel, mais en fait comme si elle exigeait que son sujet soit comme tel disjoint de toute vie surnaturelle, coupé de lui-même comme chrétien. De là ce mythe absurde dont nous souffrons toujours, d'un homme qui serait dans l'état de pure nature pour philosopher et qui se couronnerait de la grâce pour mériter le ciel. La couronne aura vite fait de tomber comme un accessoire inutile. L'homme de la nature restera de la nature déchue. La révolution cartésienne a été un processus de sécularisation de la sagesse.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
L'homme et Dieu. Quelle est donc la place que peut donner Descartes à Dieu ? Maritain commente ainsi, dans la petite conférence, qui est une grande conférence, vous vous en doutez, qu'il a tenue au Studio Russe en 1931. Du côté de ce qui est supérieur à l'homme, Descartes était trop intelligent pour refuser le mystère. Il l'épaissit, plutôt, il suspend tout, et la science elle-même, à Dieu et à son incompréhensibilité, souveraine garantie de la valeur de l'entendement et des idées claires. Mais ce qui demeure, et ce qui est capital pour tout l'avenir de la pensée, c'est qu'une science du mystère est désormais impossible. Par science du mystère, il faut entendre théologie. Donc la théologie est impossible, selon Maritain, pour Descartes. En bref, Descartes a nié la possibilité de la théologie comme science. La seule science, la seule sagesse, n'est-elle pas la sagesse naturelle, la philosophie ? Un siècle et demi plus tard, Kant, comme pour châtier cet orgueil, niera à son tour la possibilité de la métaphysique comme science. Le mépris de la théologie, c'est-à-dire de l'usage le plus haut que l'homme puisse faire de la raison spéculative en la familiarisant avec les choses de la déité, le mépris de la théologie a été la première démission est le premier reniement de l'intelligence chrétienne. En ce qui concerne la métaphysique elle-même, Descartes a légué à la pensée moderne une contradiction insoluble. D'une part, pour que la connaissance de l'existence de Dieu soit la plus certaine de toutes, il faut, dans le système cartésien, que l'idée de Dieu soit une idée claire, la plus claire et la plus distincte de toutes, une intuition intellectuelle. D'autre part, l'infini ne nous est aucunement intelligible. Il est vain de spéculer sur lui. Nulle science n'en est possible. Voilà la pensée moderne lancée vers l'agnosticisme. Panthéisme, agnosticisme, elle oscillera sans repos entre les deux termes de cette contradiction. À vrai dire, Descartes lui-même, qui a constamment brisé les harmonies de la Philosophia Perennis en deux erreurs antinomiques qui se masquaient l'une l'autre, Descartes ne se souciait pas beaucoup de la conciliation spéculative d'une telle contradiction. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu comme garant de la science. Il se porte donc à lui par la voie la plus rapide et qui ressemble plus à une intuition pour savoir qu'il existe et qu'il garantit l'ordre humain. Pratiquement rassuré là-dessus, Dieu ne l'intéresse plus. C'est le monde qui l'intéresse. Il se détourne religieusement de Dieu, trop haut, trop sublime. Rendons rapidement nos devoirs au Créateur et maintenant à nous la terre. Si la raison s'attardait dans les choses divines, ce ne pourrait être que pour se les soumettre, puisque connaître, pour la raison cartésienne, c'est se soumettre l'objet. Une fuite sacrée la précipite aux choses d'en bas. Et voilà ce qui nous importe. Le renversement de l'ordre intellectuel, l'inversion du sens de la connaissance, dont Descartes est non pas sans doute le premier responsable, mais comme le prince et le législateur. La métaphysique se réduit à une justification de la science. Elle a pour but de rendre la physique possible. Aristote disait qu'il y a plus de joie à connaître imparfaitement et obscurément les choses divines qu'à connaître parfaitement les choses proportionnées à notre esprit. Et ainsi, le propre de notre intelligence est de se traîner vers les choses divines. Descartes, au contraire, se vantait de n'employer que fort peu d'heures par an aux pensées métaphysiques. À ses yeux, il importe d'avoir bien compris une fois en sa vie les principes de la métaphysique, mais il serait très nuisible d'occuper souvent son entendement à les méditer, à cause qu'il ne pourrait si bien vaquer aux fonctions de l'imagination et des sens. L'entendement cartésien, commente Maritain, ne se traîne pas vers les choses divines, il s'installe dans les choses terrestres. La science cartésienne est par essence une science de riches, de possédants. Ce qui lui importe avant tout, ce n'est pas la dignité de l'objet, quand même il ne sera atteint que par des moyens pauvres. C'est la perfection des moyens, c'est le confort des idées claires. Du côté de ce qui est inférieur à l'homme, du côté du monde de la nature corporelle, l'intelligence cartésienne prétend tout connaître à découvert, par la substance, par l'essence même. Ainsi, l'évidence cartésienne va droit au mécanicisme. Elle mécanise la nature, elle la violente, elle anéantit tout ce qui fait que les choses symbolise avec l'esprit, qu'elle participe au génie du Créateur, qu'elle nous parle. L'univers devient muet. Et pourquoi tout cela? Quelle est la fin de tout notre effort de connaître? C'est une fin pratique, devenir, ainsi qu'il est dit dans le discours de la méthode, comme maître et possesseur de la nature. Vouloir dominer et utiliser la nature matérielle est une chose bonne. Mais la direction de la connaissance ayant été renversée, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette domination pratique des forces créées devait devenir, deux siècles après Descartes, le but dernier de la civilisation. Et cela, c'est un très grand mal. Vous comprenez qu'entre l'homme et Dieu, il y a une relation profonde, l'homme est à l'image de Dieu, et que l'injonction, l'invitation plutôt qu'une injonction, de pouvoir soumettre tout ce qui est à disposition sur la terre, parce que l'homme est la créature parfaite qui accomplit le dessein du Père, eh bien cette invitation est vue comme une possession par Descartes à partir du moment où la faculté de connaître, la manière de renvoyer à la connaissance est complètement inversée par rapport à ce qui était un héritage depuis Aristote, par saint Thomas d'Aquin et par toute une philosophie qui était conçue en lien avec la théologie. La réponse de Maritain par rapport à Descartes peut nous paraître dure, sans concession, mais vous avez un motus de Maritain qui a été présent toute sa vie et qui peut le définir, à savoir, il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Beaucoup ont l'esprit mou et le cœur dur. Comment comprendre cette phrase ? Maritain la commente en disant « J'ai été rivé à la plus dure des philosophies. » Oui, la philosophie de l'abstraction, la philosophie du concept est la plus dure. Pourquoi ? Parce que l'intelligence de l'homme est faite pour abstraire. Elle est faite pour aller vers l'abstraction la plus haute. Certes, c'est un moyen pauvre, c'est un moyen difficile, mais c'est ce moyen pauvre qui nous permet d'aller justement vers ce qui nous dépasse. Avoir des idées claires, c'est avoir, comme dit Maritain, un moyen riche, mais on se contente d'être en balcon au-dessus du monde, de pouvoir le posséder, de pouvoir le quantifier, le qualifier, etc. Le reproche des modernes vis-à-vis de Descartes en disant « il est peut-être responsable de la planète et du méfait de la planète » n'est pas si infondé. La question que je voudrais poser, c'est « y a-t-il un retour possible d'une métaphysique telle que la propose Maritain, une métaphysique qui soit en lien avec la théologie ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Le réalisme philosophique est toujours présent, mais Maritain n'est pas forcément vu comme un auteur thomiste. On dit oui, c'est du Maritain, c'est à part. Quelle serait la définition du thomisme ? Une norme ? Être fidèle au texte ? Maritain est encore plus fidèle que certains au texte. Il différencie la notion du concept, alors que beaucoup de commentateurs ne la font pas en critiquant Maritain à propos, par exemple, du concept d'existence. Le concept d'existence est possible pour Maritain et pas uniquement le jugement, par un retour de l'intuition sur elle-même, précisément, c'est possible à condition qu'on sorte du notionnalisme. Et dans le De Veritate, Thomas est très précis, les notions sont étrangères à la pensée, pas le concept, les notions. Donc il ne peut pas y avoir de notion de l'acte d'exister, mais il peut y avoir un concept. Et Maritain prolonge la lettre de saint Thomas. Et je pense qu'il y aurait un retour à faire à Maritain, bien lu, et lu pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui prend du recul par rapport à l'histoire. Il ne philosophe pas comme on le fait aujourd'hui, hein, avec le texte et beaucoup de notes en bas de page. Il philosophe par une autre rigueur, qui est la rigueur abstractive qu'on a peut-être perdue précisément parce qu'on sort de Descartes. Que cette année nous permette, à travers la problématique du corps, de relire Maritain et de lui donner pleinement droit de citer.